Bon matin tout le monde. Ça va bien? Good. La souffrance. Dans les dernières semaines, on a parlé encore de la souffrance, mais on a abordé surtout le thème général de comment survivre à la souffrance, de comment traverser la souffrance. Comment qu'on fait ça? Ça fait déjà plusieurs semaines là, qu'on en parle. Si on vous demande comment vous faites pour supporter la souffrance, pour endurer la souffrance, qu'est-ce que vous allez répondre au point où est-ce qu'on en est? Avec ce qu'on a discuté, avec tout ce qu'on a vu depuis le début. On dit d'appeler Étienne. Mauvaise réponse. Oh là là! Non, ben oui, mais là, quand elle est vraiment trop mauvaise, faut le dire, je te compterai pas de mentir. T'en trouvais bonne, pas moi. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne? Basé un peu, peut-être, si vous allez voir dans ce qu'on a vu dans les dernières semaines, de pas la fuir. Excellent, parce qu'on a vu, hein, une des étapes importantes, c'est la marche. Puis c'est de traverser ce qui est devant nous, c'est d'avancer jour après jour, de la marche. Puis il faut marcher, qu'on soit dans la souffrance ou non, qu'on se soit dans la joie ou dans la souffrance, il faut marcher tous les jours parce qu'il y a la notion d'avancer continuellement, d'un pas constant dans notre marche, dans notre relation avec le Seigneur, d'approfondir davantage sa personne, son être, son amour, qui il est, d'échange, hein? Donc, il y a l'élément de la marche, de ne pas la fuir, la souffrance. Plus qu'on la fuit, bien, plus qu'elle va durer dans le temps, mais non seulement ça, on va empêcher la raison pour laquelle la souffrance, elle est présente dans notre vie. On va empêcher cette épreuve de souffrance-là qui est potentielle ou qui est devant nous, de faire son œuvre dans notre vie, dans notre cœur. Ça prend du courage. Ça prend vraiment du courage. Pour voir la souffrance de cette façon-là et ne pas l'éviter ou se cacher, la fuir en attendant qu'elle passe comme si c'était une tempête dont il faut se protéger. Ça, très important. Autre chose, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Comment traverser un moment de souffrance? Comment survivre à un moment de souffrance? Autre élément qu'on a vu. N'en parler à Dieu, s'exprimer. Hein? Puis on l'a vu sous le thème des pleurs, les lamentations. Ça, écoutez, c'est pas quelque chose d'une façon naturelle, culturellement, en Amérique du Nord, qu'on est vraiment habitué. Hein? Mais de ne pas avoir peur d'exprimer les choses comme elles sont actuellement, aujourd'hui, dans mon cœur, au moment où est-ce que je vous parle. À sachant très bien que notre état d'être, les questions de nos cœurs, tout évolue. Peut-être que demain, je vais être dans un autre état, mais aujourd'hui, présentement, c'est là que je suis. Et je l'exprime. On avait fait le parallèle entre les personnes qui sont très stoïques, hein, faut être neutre, les émotions, c'est très peu ou pas du tout. Puis il y a ceux qui sont d'un autre extrême, où est-ce que c'est... C'est beaucoup d'émotions, puis juste les émotions, puis si t'as pas d'émotions, mais tu vis pas. L'autre, il dit, oui, mais si t'as trop d'émotions, t'es énervant. Tu sais, il y a vraiment ces deux camps-là qui s'affrontent, hein, puis on le voit même dans la littérature, quand on lit des livres sur la souffrance, il y a vraiment les deux approches qui sont exposées, l'approche intellectuelle, puis l'approche émotionnelle. Mais le modèle des Écritures, c'est il met les deux ensemble. Les deux sont présents. Les deux sont importants. Oui, ça prend une raison, ça prend un fondement théologique. On a vu, hein, c'est important de se préparer théologiquement à la souffrance, de comprendre vraiment bien qui est Dieu, la place de la souffrance, la façon dont Dieu voit le monde, la raison de la souffrance dans notre vie. Toutes ces préparations-là sont plus intellectuelles. Parce que, de préférence, on veut les faire avant que des grandes souffrances arrivent dans notre vie. De préférence. Mais c'est beaucoup plus conceptuel. Mais quand on est dedans la souffrance, de demeurer intellectuel, on s'emprisonne et on nie la vérité de notre état, de notre situation, de où est-ce qu'on en est. Parce que notre cœur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a des émotions, il crie, il s'exprime. Et de ne pas l'écouter, ça revient, de ne pas le laisser s'exprimer, ça en vient à faire du déni également. Et le Seigneur veut qu'on expose les choses comme elles sont devant lui. Et on va prendre le temps d'y revenir aujourd'hui. Donc, on a parlé de ces deux éléments-là, puis ça va revenir encore parce que c'est fondamental, puis on a besoin de l'entendre. Pas seulement de l'entendre, mais de le mettre en pratique. Dans les dernières semaines, quand il y a des émotions qui viennent, j'essaie de les accueillir davantage, de les exprimer davantage. J'essaie de trouver ça le fun. On est tous différents, hein? Ouais. C'est ça. On peut pas trouver ça le fun de pleurer, mais trouver ça le fun d'être en mesure de s'exprimer, d'être en mesure d'accueillir ce que l'on vit, puis de pas avoir peur de l'exposer aux autres, d'être transparent. On peut être fier de ça. On peut être content de ça. C'est des victoires parce que ça démontre également la confiance que tu as aux gens autour de toi, de t'exprimer comme ça librement. Tu partages de ton cœur, tu partages de ton être intérieur. Et le Seigneur nous appelle à ce partage-là. Il dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a un élément dans l'échange, dans l'expression de nos émotions qui amène dans l'unité ensemble. Puis dans les gens avec qui on est proche, les gens de notre entourage. Fait que c'est vraiment un signe de confiance, un signe d'amour, qu'on n'a pas besoin de se protéger. On peut se montrer tel que l'on est au moment où est-ce qu'on est présentement. Autre chose, qu'est-ce qu'on a vu aussi? L'autre élément, le dernier élément qu'on a vu, on en a parlé pendant 2 semaines. On l'a vu pendant 2 semaines. Un autre élément essentiel qu'on a vu pour traverser la souffrance, pour que la souffrance amène quelque chose, que la souffrance nous amène à grandir et non à nous détruire. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas que la souffrance nous détruise. Mais si on arrête de marcher et qu'on stoppe au beau milieu de la souffrance, c'est là qu'on va sombrer. C'est pas vrai que la souffrance amène juste tout le temps des éléments positifs dans notre vie. Ce qui va faire la différence, si il va y avoir des éléments positifs, c'est la façon dont on la traverse. Et d'arrêter de marcher, ça ne nous amène pas dans la bonne direction. D'arrêter de s'exprimer, d'exprimer nos cœurs, de voir les choses comme elles sont dans le présent, de les exprimer à Dieu, d'arrêter de faire ça, c'est pas un pas dans la bonne direction. On garde sur nous, on garde notre fardeau. C'est quoi, serait quoi la troisième chose? Oui, on a vu que Jésus avait souffert dans tous les domaines, on se rapproche. Donc, si Jésus a souffert dans tous les domaines, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, là, concrètement, qui suis dans la souffrance, qu'est-ce que ça veut dire que de savoir que Jésus a déjà souffert dans tous ces domaines-là? Ça amène un élément de compréhension. Donc, si Dieu me comprend, qu'est-ce que ça change pour moi concrètement? Ça nous ouvre à recevoir sa consolation, oui. C'est vraiment, oui, la confiance. On peut lui faire confiance parce qu'il nous comprend et ça nous ouvre à recevoir sa consolation. Quand une personne arrive puis que la personne n'a vraiment pas rapport puis que tu dis elle ne comprend absolument pas ce que je vis, elle n'est pas là pantoute, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Est-ce que tu vas te laisser consoler par cette personne-là? Pas nécessairement. Surtout si, tellement qu'elle ne te comprend pas, elle arrive puis elle essaye puis de faire toutes sortes de choses qui font juste empirer le cas au lieu de te consoler, ça rajoute à ton souffrance, à ton malheur. T'as juste hâte qu'elle parte, cette personne-là. Ça l'arrive, ça. Les amis de Job étaient comme ça. Les amis de Job, ils arrivaient avec des principes vraiment, vraiment bibliques, là. Tu sais, écoute, on récolte ce que l'on sème. Y a-t-il un principe plus biblique que ça? Hein? C'est ça que les amis de Job lui disaient. Mais il y avait une vision de Dieu très, très limitée. Dans leur conception, la souffrance ne pouvait pas avoir autre source que le péché, que le problème moral. Et c'est complètement faux. Ils étaient limités et ils imposaient leur vision. Ce n'est pas des bons amis, ça. Pas des bons amis. Ils n'étaient pas de bons conseils pour Job. Faire confiance à Dieu, le fait que Jésus ait traversé toutes ces choses-là, Dieu est de bons conseils. La présence de Dieu fait la différence. Et nous pouvons lui faire confiance. Et Brian a pris le temps la semaine passée de nous expliquer vraiment d'une façon précise, bien démontrée dans les Écritures, en quoi Jésus est le Sauveur parfait, en quoi nous pouvons pleinement lui faire confiance en tout point, pour nos souffrances, pour nos péchés, pour notre salut. On peut lui faire confiance en tout point. Il a déjà tout vécu ça. Il a déjà tout fait ça. Il nous comprend. Il nous aime. Et il l'a traversé pour nous. Ah oui, amen. Vraiment. La confiance en Dieu, sans confiance en Dieu, sans s'en remettre pleinement à lui, dans la souffrance qu'on est en train de traverser, sans la foi, c'est impossible. C'est impossible de traverser l'épreuve et de demeurer attaché à Dieu. Oui, Brian.
La peine d'écouter sa souffrance, de l'aider à l'exprimer, de savoir ce qu'elle vit.
Oui.
Je trouve ça important. Oui, tu as confiance, mais avant d'arriver chez quelqu'un qui souffre et de dire juste il a fait ça, fais confiance au Seigneur, c'est facile.
Oui. C'est d'être un peu comme les amis de Job. Le reproche qui a été fait à ses amis, c'est aussi de ne pas avoir été là juste pour prendre soin de lui, de ne pas s'être assis à côté, de juste passer du temps avec et de prendre soin de lui. Ouais. Mais, en tout cas, ils ont été vite. On voit comment est-ce que Jésus a pris soin d'Élie. Il a envoyé Dieu, a envoyé les anges pour donner à manger à Élie. Il s'est reposé, il a remangé, puis par la suite, le Seigneur a adressé des choses. Mais l'écoute, puis ces étapes-là, puis je vais les mettre en avant, on les avait déjà vues. Ces étapes-là, marcher, pleurer, faire confiance, prier, penser, remercier, aimer et espérer, c'est toutes des choses qui viennent d'une façon très différente d'une personne à une autre. Chaque souffrance est unique, hein? Chaque souffrance est unique. Et dans notre souci d'accompagner la personne, c'est vraiment... Notre souci, c'est d'accompagner la personne. Ce n'est pas d'arriver avec ton agenda, la façon dont toi, tu traverses tes souffrances, puis de l'imposer à l'autre, puis de dire, c'est ça le chemin, je le sais, j'ai déjà été. Attends une minute, chaque souffrance, elle est unique. Il y a tellement d'éléments, c'est complexe le cœur humain, il y a tellement d'éléments dans sa vie que tu n'es pas conscient, que tu ne peux pas arriver puis te présenter ton agenda pour le sortir de sa souffrance. Tu ne peux pas faire ça. Le seul qui est en mesure de connaître tous les détails de son cœur, c'est Jésus-Christ. Et on est là en appui en son œuvre. On est là en appui au travail de l'Esprit, au travail de Dieu qui est en train de faire dans sa vie. C'est important de demeurer à l'écoute et de premièrement prendre soin de la personne. Très important. Et puis par la suite, bien, ces éléments-là vont venir sous la direction de l'Esprit dans sa vie. Puis tu vas le voir, ça va être manifeste, qu'est-ce qu'il a besoin, là où est-ce qu'il est rendu. Mais ça demande un engagement de notre part. Ça demande d'accepter de s'exposer à la souffrance. Ça demande d'aimer, ça demande beaucoup d'amour pour prendre soin d'un frère, d'une sœur ou de quiconque dans la souffrance. Si on essaie nous-mêmes de fuir nos propres souffrances dans nos vies, en se cachant, mais qu'est-ce qu'on va faire de la personne qui souffre? On va vouloir se cacher de cette personne-là également. On va la mettre de côté, on va l'éviter, on va se trouver des excuses, on va inconsciemment, même peut-être même consciemment, l'éviter et la mettre de côté. Puis on va dire, ben, il y a des pasteurs pour ça. Hein? On est en train de faire quoi quand on fait ça? Est-ce qu'on est là pour exercer le ministère? Les pasteurs sont là pour nous équiper, pour aller faire que nous, on fasse le ministère. Mais c'est pas vrai que tout est le travail du pasteur. Il peut être un appui, une aide, mais c'est la responsabilité de chacun de nous de s'aimer, de s'accompagner comme ça. Et le fait d'affronter les souffrances dans nos propres vies va nous aider à accompagner les frères, les sœurs, les gens autour de nous qui souffrent, à vivre les leurs également. Comme Jésus-Christ, qui a vécu toutes ces souffrances-là, il les a traversées. Maintenant, lui-même, il est en mesure. Il nous comprend. Il est en mesure, peu importe notre souffrance, de la comprendre parce qu'il les a tout vécues. Et ce matin, on va rajouter un de ces éléments-là, qui est la prière. La prière. C'est pas quelque chose de nouveau, hein? La prière. C'est si simple. On va parler un peu de la prière ce matin, mais peut-être un aspect de la prière. Parce que la prière, ça a l'air bien simple. Mais en réalité, ça peut dépendre des circonstances. Ça peut vraiment dépendre des circonstances. Est-ce que c'est encore facile la prière lorsque Dieu ne semble plus être notre allié? Lorsque Dieu permet des épreuves, des souffrances qui ne semblent pas compréhensibles, qui sont injustifiées et qui semblent être au-delà de nos forces. Pourquoi ça et pourquoi moi? Dans ces circonstances, la prière peut être difficile, voire même impossible pour certains. Mais elle est quand même au cœur de la solution pour y survivre. Et c'est ce qu'on va prendre le temps de regarder ce matin. On va prendre le temps de regarder un obstacle dans nos cœurs qui nous empêche de se tourner vers Dieu dans la prière lorsque nous souffrons. Et on va prendre le temps pour vraiment bien considérer cet élément-là et la réponse à cet obstacle-là dans nos cœurs. On va se tourner encore une fois dans l'histoire de Job. Job est vraiment un livre extraordinaire concernant la souffrance. Job aborde le sujet, le thème de la souffrance sous tellement d'angles, sous tellement de facettes que c'est naturel de prendre le temps de s'arrêter et puis de regarder à ce livre-là plusieurs semaines consécutives pour bien comprendre tous les angles de la souffrance. Autant les angles philosophiques, comme on a regardé au tout début de la série, et autant les angles très pratiques et concrètes de pendant qu'on traverse la souffrance, comme on est en train de le faire présentement. Chacune de ces étapes-là, marcher, pleurer, faire confiance, prier, penser, remercier, aimer, espérer, sont présents dans le livre de Job. Ils sont tous là. Et à d'autres endroits dans les Écritures, mais particulièrement présente et concrète dans l'histoire de Job. Ce n'est pas seulement un psaume où est-ce qu'on essaie de comprendre un peu le contexte, dans quel événement, c'est quoi les circonstances qui ont amené l'auteur à écrire ce psaume-là. Non, Job, on a vraiment son histoire, du début à la fin. Et en plus de ça, on a un prélude à l'histoire que Job lui-même n'avait pas, qui nous emmène une perspective complètement différente sur les souffrances de Job, que lui-même n'avait pas pendant qu'il les vivait. Et c'est un des éléments qu'on va regarder ce matin dans tout ça. Premièrement, pour situer un peu les gens, la majorité connaissent l'histoire de Job, mais je ne peux pas le prendre pour acquis. On voit que Job était un homme qui était juste, qui était fidèle, qui était bon, et Dieu prenait plaisir dans son serviteur. Il disait, Job, il m'aime vraiment, il est unique, c'est Job. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on voit dans le prélude que Satan était au conseil de Dieu et il a accusé Dieu. Il a dit, Job, ton serviteur, il t'aime juste parce que tu le bénis. Il t'aime juste parce qu'il y a un intérêt pour lui. Si tu arrêtes de le bénir, je peux t'assurer qu'il va te renier, qu'il va se détourner, et puis tu vas voir le vrai cœur de Job finalement. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné la permission. Il dit, vas-y, la première étape, il a perdu ses enfants, ses biens. Il y a eu un vent, une tempête qui a tout emporté. Flou, Job, en une journée, il a tout perdu. Mais est-ce qu'il a renié Dieu? Non. Il a dit, Dieu donne, Dieu reprend. Loué soit le Seigneur. Ça a été la réponse de Job. Mais il a quand même exprimé sa tristesse. Il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié, il a exprimé sa douleur. Mais en bout de ligne, il s'en est remis à Dieu. Et là, Job retourne devant Satan retourne devant Dieu. Et là, Dieu lui permet de l'attaquer physiquement, mais pas de prendre sa vie. Et Job tombe malade, tombe dans la souffrance, une souffrance intense. Et là, les choses se corsent un peu. Hein? C'est plus extérieur à lui, là. C'est lui physiquement. Et ça vient l'handicaper, ça vient le paralyser. Job ne sert plus à rien. Il n'a plus rien, il ne sert plus à rien, et ça lui enlève même son espoir d'un jour à reprendre les choses en main. Je l'ai fait une fois, je vais être capable de le faire deux fois. L'être humain peut dire ça. Combien de personnes ont fait faillite dans leur vie une fois, et puis 10 ans plus tard, ils sont revenus plus dans l'abondance qu'ils l'étaient avant de faire faillite, parce qu'ils ont appris, on va se relever. Mais là, t'es malade, t'es alité. Tu souffres et tu ne vois pas le bout de ta souffrance. Tu souffres à un point que tu demandes à Dieu de t'enlever la vie et que tu maudis le jour de ta naissance. C'est fort, la souffrance de Job. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance de la souffrance. Vraiment. La souffrance que Job vit, elle est intense. Parce que tout lui a été enlevé. Tout. Tous les sujets de gloire d'un être humain, un sujet de réjouissance, de fierté, lui a été enlevé. Tout sur quoi il peut fonder son identité, son espoir, son espérance, il n'y a plus rien là en tant qu'être humain. Il a perdu tout le fruit de son travail. Il a perdu probablement son statut social parce qu'il est devenu pauvre. En plus, il est devenu malade, il a perdu la santé, il a perdu son fonds de pension, il a perdu la face devant tout le monde parce qu'on voit comment est-ce que ses amis pensent, on voit qu'ils sont vraiment dans la pensée que si tu es béni, si tu es riche, tu es près de Dieu, Dieu prend plaisir en toi, donc tu es supérieur aux autres, tu es près de Dieu, tu es vraiment quelqu'un là. Mais là, écoute, Job vient tout perdu en l'espace d'une journée, puis après ça, il tombe malade, mais vraiment, c'était pas assez de tout perdre. Il est tombé du sommet à dernier barreau en bas, là. Donc, Job a vraiment perdu beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est intéressant que l'auteur prenne le temps de le mentionner comme ça, parce que quelque part, on peut tout se faire le lien avec notre vie et celle de Job. Quand on perd quelque chose, on peut savoir, bien, Job, il l'a déjà perdu lui aussi. Perdre la santé, c'est pas facile. Sa femme n'a pas été un grand soutien. Elle dit, renie Dieu, meurs, puis ça va être fini, là, ta souffrance. Sa femme, elle l'a même incité à renier Dieu. Elle est un outil entre les mains de l'ennemi là, dans sa souffrance. En plus, Job s'est retrouvé tout seul. La personne qui était la plus intime avec lui, sa femme, en qui il a espéré probablement le plus un soutien, ben elle dit, écoute, là, elle dit, t'es fini. Elle dit, renie-les, il va te tuer, puis après ça, c'est fini. Là. Tu sais, il avait quand même une notion de souveraineté de Dieu. En tout cas, tout est tenu entre les mains de Dieu. Mais Job, on peut s'associer à Job de tellement de façons, et ça, c'en est une. Tu sais, quand il arrive quelque chose de difficile dans notre vie, qu'on perd quelque chose à laquelle on tenait vraiment, bien, on peut s'associer à Job. Parce que Job a non seulement perdu cet élément-là, mais également tous les autres qui te restent encore peut-être. Mais quand on perd quelque chose auquel on tient réellement, profondément, c'est là qu'on voit, dans la réaction de nos cœurs, réellement, où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Dieu. Quand on parle que les épreuves sont là pour purifier, hein, sont là pour purifier notre foi. On en a parlé dans les dernières semaines. De purifier notre foi. Et quand on perd quelque chose qui nous est vraiment profondément précieux, de quelle façon on réagit dans cette souffrance-là? De quelle façon on réagit dans cette souffrance-là? Et ça m'amène à ma question qui est la suivante. Lorsque nous souffrons, qu'est-ce qui peut, selon vous, nous empêcher d'aller dans la prière afin d'y chercher la présence de Dieu, son réconfort et son soutien? Le manque de confiance en lui. Parce qu'on ne croit plus vraiment qu'il veille sur nous. Parce que là, on vient de se faire enlever quelque chose qu'on l'on tenait vraiment. Puis on disait, merci Seigneur, je l'ai dans ma vie, tu comprends mon besoin, tu m'aimes. Dieu me l'accorde parce qu'il comprend à quel point c'est important pour moi. Et là, Dieu te l'enlève. Oh! Qu'est-ce que ça vient attaquer, là? Ça vient remettre en cause la bonté de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, en tant qu'être humain. De douter de sa bienveillance, de son amour, de sa miséricorde. Il y a un choc, là. On est saisi, puis on ne comprend pas, là. On dit, voyons donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu vraiment bon? Tu veux-tu vraiment mon bien? Oui, Brian. L'injustice.
C'est tellement injuste.
Ouais.
Puis, dernièrement, j'ai vécu un petit événement qui m'a vraiment éclairé là-dessus. Une petite fille de 3 ans était chez nous. Puis là, elle voulait s'accaparer d'un jouet que sa sœur avait. Puis j'ai dit non. Puis elle a dit, c'est à moi ça. Ben, j'ai dit, ah oui, c'est à toi. Tu l'as trouvé où? Elle dit, dans la boîte de jouets, là, tu sais. La boîte à jouets, c'est à qui? C'est à moi. J'ai dit, non, la boîte à jouets, c'est à grand-papa. Puis là, ça m'a frappé comment est-ce que nous, on est comme ça avec Dieu. C'est à moi, ça. Puis Dieu, il fait comme, non, c'est à moi. Puis je te l'ai accordé, mais c'est à moi. Puis elle, c'était vraiment l'injustice, là. C'était la colère, parce que c'était injuste, là. C'était à elle.
Ouais. Puis ça méritait de le défendre, puis de le proclamer, puis d'aller le chercher. Puis dans son geste pour aller le chercher, c'est pas un geste de grâce et de restauration. C'est revendicateur. C'est revendicateur, et à la limite, c'est un geste de destruction. À la limite. Parce qu'ils sont prêts à beaucoup, les enfants, pour aller rechercher leurs choses, donner des coups, détruire. Et c'est ça le parallèle. On fait la même chose avec dans notre propre vie. Quand on a un jouet à lequel on tient beaucoup et qui nous est enlevé, on crie à l'injustice. Ce n'est plus juste. Oui, Jacqueline.
Mais il fallait que je me ramène à qui est Dieu. Il fallait que je revienne là. Puis j'étais parfaitement consciente que ce que je vivais là, pas avoir le goût de m'en remettre à Dieu, c'est piège de l'ennemi. Quand je faisais le pas de revenir et de me souvenir de prendre la parole de Dieu, puis de, d'y lire, puis de me rappeler qui est Dieu, ça s'enfuyait. Alors je revenais.
Oui? Ah, puis, tu sais, je suis content d'entendre vos réponses parce que c'est réellement tout ça ce qui se passe. Tu sais, la prière, c'est une solution simple, hein? C'est facile, on la connaît, ça fait longtemps qu'on entend parler de l'importance de la prière dans chacune de nos vies. Mais là, on est dans un contexte de grande souffrance, on est dans un contexte de souffrance, on est dans un contexte d'épreuve. On est dans un contexte où est-ce que nous sommes mis dans le feu, on est placé dans le creuset, sous le feu, sous pression, dans le but de quoi? De faire remonter les impuretés de l'or. Et c'est là qu'on voit toutes nos réactions de cœur devant le jouet qu'on vient de se faire enlever, l'injustice, le sentiment d'injustice qui nous envahit, la remise en question de la bonté de Dieu, toute notre conception de qui nous sommes, de notre identité, de l'identité de Dieu, de la personne de Dieu, de la souveraineté de Dieu. En aucune circonstance, en temps normal, on va remettre en question la souveraineté de Dieu. Quand ça va bien. Mais dans la souffrance emmène nos cœurs à la remettre en question. Et si on veut, on prend pas le temps d'écouter ce que l'on vit et on reste juste dans notre tête, on ne verra pas ça. On va dire non, non, Dieu est bon. Non, on ne la remet pas en question. Tais-toi. Puis on repousse ça dans le fond. Est-ce que c'est ce que Job a fait? On voit dans le livre de Job, tout au long de Job, Job pose la question pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Si j'ai péché, qu'on me le révèle, je ne vois pas pourquoi tout ça m'arrive. Il remettait en question Dieu. Il disait, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation de ma vie? Je veille à rester en règle devant toi, justement, pour que toutes ces choses-là ne se produisent pas. Et là, bang, je suis foudroyé, non seulement d'un malheur, mais de malheurs multiples. Il ne me reste plus rien. Tu es où, Dieu? Il y avait le sentiment d'injustice, effectivement. Oui, oui. Toute sa conception de la personne de Dieu était remise en cause, là. Peu importe c'était quoi sa conception de Dieu. Est-ce que c'était celle de ses amis? Probablement pas, parce qu'il demeurait ferme. Il demeurait ferme, il dit non, non, il y a une raison. C'est pas un péché qui est dans ma vie. C'est pas vrai, je ne renierai pas Dieu. Dieu est plus grand que ça. Dieu a une raison et je décide de m'en remettre à lui. Ça n'empêche pas qu'il posait la question à Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Et la souffrance nous amène à vient shaker notre conception qu'on a de la personne de Dieu, notre vision de Dieu beaucoup plus profondément que ce qu'on peut se l'imaginer tant qu'on n'est pas dans le creuset qui est soumis au feu. Oui, Lorraine. Vraiment, c'est une tendance naturelle de s'isoler, comme tu dis, et de se concentrer sur notre souffrance et de se protéger. On souffre tellement qu'on tombe seul, qu'on tombe complètement seul. Puis on exclut également Dieu. Parce que dans notre conception, Dieu nous a blessés. Dieu qui était notre ami, qui était notre allié, qui était notre partenaire, nous a trahis. Il nous a abandonnés. L'abandon, OK, la trahison, c'est une autre chose aussi, ça, dans notre cœur. La conception de la trahison est quelque chose qui va nous empêcher d'aller à Dieu dans la prière pendant notre souffrance. Donc, toutes ces choses-là, c'est important qu'on les regarde. Elles sont présentes dans l'histoire de Job. Je les passe très, très rapidement parce que on n'aurait pas le temps de tout regarder. Jusqu'au chapitre 28. Le chapitre 28, 38, ça 38. Ça devient encore plus intéressant parce que c'est là où est-ce que Job s'arrête. Le discours, si on peut dire, des amis cesse. Il y a eu plusieurs phases là dans les 38 premiers chapitres. Il y a les deux premiers chapitres où est-ce qu'on a la mise en scène, la situation. Et là, le discours des amis commence. Ils établissent leur fondement théologique pendant quelques chapitres et par la suite, ils font une discussion dans la souffrance, leur conception de Dieu, puis ainsi de suite. Puis ils amènent plein d'éléments intéressants. Mais Job, il demande à Dieu une audience. Il dit, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais entendre de la part de Dieu qu'est-ce qu'il en est. Et là, chapitre 38, Dieu arrive. Oui, il veut plaider sa cause. Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? » Intéressant. « Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » Déclare-le, si tu le sais avec ton intelligence. Qui a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ses bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a poser la pierre angulaire. Alors, qu'ensemble les étoiles du matin éclairaient en chant de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui fixais mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme parée d'un vêtement. Mais le méchant sont privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu prononcé dans les profondeurs de l'abîme? Promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu considéré l'immensité de la terre? Déclare-le, si tu sais toutes ces choses. Et Dieu continue, et Dieu continue, et Dieu continue. Quand même intéressant, la réponse de Dieu. Et là, il parle de la création. Tantôt, il va parler des animaux. Et il y a quatre choses vraiment impressionnantes, vraiment choquantes, qui sont vraiment marquées dans la réponse de Dieu, qui vont nous aider à remettre les choses en place. Dans cette réaction-là de notre cœur, qui est de crier à l'injustice, de se fermer de Dieu et de ne pas aller en prière, parce qu'on comprend, c'est très important dans la souffrance de demeurer avec Dieu. Dieu est vraiment la solution, Jésus-Christ, de comprendre qu'il est à nos côtés, qu'il est présent, qu'il a vécu ces choses-là, qu'on peut lui faire confiance. On peut s'exprimer librement sur ce qu'on est en train de vivre. On peut marcher. Il marche avec nous là-dedans. On n'a pas à s'arrêter, à sombrer, de ne pas aller devant Dieu, de se retirer de sa présence. C'est d'arrêter de prier et c'est le début de la fin dans notre souffrance. C'est le début de la fin. C'est vraiment important de ne jamais arrêter de s'exposer à la présence de Dieu, de s'exprimer à Dieu, de ne jamais arrêter cette relation-là avec Dieu pendant que nous souffrons. Même si on n'a pas le goût, oui, on ne le sent pas. De persévérer dans ça, c'est la clé. Et de comprendre ces vérités-là que Dieu est en train d'exposer à Job fait toute la différence. La première, vraiment intéressante, c'est que Dieu se présente à Job et ne le détruit pas. Juste dans la façon dont Dieu se présente à Job. OK? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, juste ça, l'Éternel, premièrement, l'Éternel. Le nom qui est utilisé là, c'est Yahvé. Puis, ce nom-là de Dieu qui est traduit en français par l'Éternel, il est utilisé dans le contexte où est-ce que c'est la révélation personnelle et intime de Dieu. C'est celle que Dieu donne lorsqu'il souhaite une relation d'amour et d'alliance avec quelqu'un. C'est la façon dont Dieu a été appelé quand il s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent. Ça veut dire que Dieu, il vient non dans le but de t'écraser, dans le but de te faire taire et de te remettre à ta place avec violence, comme Job le mériterait probablement, parce qu'il a été, écoutez, il a quand même franchi une ligne. Et puis, Dieu se présente à lui, puis l'Éternel répondit. Celui qui veut une relation intime avec Job, il se présente pour avoir une relation. Et le mot, le deuxième mot, c'est « répondit à Job ». C'est pas « parla à Job ». Dans la conception hébraïque, quand tu parles à quelqu'un, il n'y a pas de conversation, là. C'est moi qui te parle, je suis ton supérieur et tu es mon subordonné. Et ça va dans un sens. Je te fais une déclaration. Je te parle. Je te dis quelque chose, mais j'attends pas le retour. Mais Dieu ici, il est là pour entamer une conversation avec Job. Et on le voit, Dieu parle, Job répond, et Dieu parle, et Job répond. C'est une conversation quand même intéressante. Job est dans tous ses états, il est dans la souffrance, il exprime son cœur à Dieu, et on pourrait s'attendre que Dieu arrive, puis dise, « T'as franchi une ligne, tiens, c'est fini. J'accepte pas que tu franchisses ça. Tu remets en cause ma souveraineté, tu remets en cause ma bonté, tu remets en cause toutes ces choses-là après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu mérites pas ma présence, tu es indigne, et je vais te punir. La maladie que t'as, c'est rien. » Comparé à ce que je vois de faire. Puis quelque part, des fois, on pourrait sentir qu'on mériterait la punition de Dieu puis que Dieu nous écrase. Après qu'on ait exposé nos cœurs librement, tu dis, Seigneur, mon cœur est tellement pas beau. Tout ce que j'ai vécu dans ma souffrance, c'est affreux. Je mériterais que tu te présentes en Dieu guerrier et que tu viennes réclamer justice de mon manque de foi. Mais Dieu a une attitude complètement différente avec Job. Une attitude remplie de grâce, de bonté. Il se présente à lui et il est là, il prend sa chaise, il s'assied à côté puis il va dire, viens, on va jaser. Intéressant, hein? On voit la grâce et la bonté de Dieu dans ça. Mais en même temps, il se présente de quelle façon? Du milieu de la tempête. Qu'est-ce qui avait ravagé la vie de ses enfants et de tous ses troupeaux? C'était une tempête. Et on voit plus tard dans Job, chapitre 9, verset 17, que Job avait peur que Dieu le fasse passer sous un vent de tempête. Job avait peur de la tempête. La tempête était vue comme quelque chose de terrifiant à l'époque, probablement une tornade ou quelque chose du genre. Et là, Dieu se présente avec Job, devant Job, avec grâce, bonté, voulant une conversation, mais il se présente du milieu de la tempête. C'est là que tu vois le paradoxe. Il vient avec amour, mais il vient aussi dans sa majesté, dans sa puissance, tel qu'il est réellement, pour que Job le voie aussi. Dieu est en train de présenter sa nature à Job. Il est vraiment en train de lui dire, « Je suis le maître de la tempête. Je suis celui qui la gouverne. Je me présente au milieu d'elle. Mais je suis également gracieux, rempli de bonté, et je te comprends, je suis là pour avoir une relation avec toi. » Job est en train de découvrir la personne de Dieu sous plusieurs facettes. Et Dieu, dans son discours, pose des questions à Job qui démontrent sa supériorité, qui démontrent sa grandeur, qui remet Job à sa place. Mais en même temps, le fait que Dieu se présente à Job et que Job ne soit pas détruit démontre également sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Dieu apparaît de la plus majestueuse et la plus impressionnante des manières qui soit, comme le roi de la tempête. Il vient comme un Dieu de grâce et un Dieu personnel et en même temps comme une force infinie et écrasante. Job expérimente la nature de Dieu, sa grâce et aussi sa majesté. Il en est saisi et voit Dieu de ses propres yeux. Nous pouvons aller vers lui, même lorsque nous souffrons et sommes en colère contre lui. Cela ne justifie pas que nous nous détournions de lui. Ça veut dire que même quand on est en colère, qu'on subit cette injustice-là, qu'on l'exprime, ça ne nous enlève pas le privilège et le droit d'aller devant Dieu et de vivre cette relation-là avec lui. Comprenez? Vraiment important. Comme tu avais dit tantôt, Jacqueline, quand tu revenais à Dieu, tu revenais à la vérité, tu te parlais, tu te raisonnais, bien, tu retournais avec le Seigneur, tu retournais vers Dieu d'une façon naturelle. Est-ce que Dieu t'accueillait? Cette relation-là était restaurée. Malgré ton rejet de Dieu, ton revers, si on peut dire, de ton cœur envers lui, quand tu revenais, Dieu t'accueillait. C'est un peu ce qu'on voit là avec Job. Et Dieu est en train d'instruire Job. La deuxième chose qu'on voit, c'est le Seigneur ne répond pas tout en répondant. Quand même intéressant. Job attend des explications et ses amis attendent une condamnation. Dieu ne dit rien sur le conseil céleste ou Satan. Rien concernant ses raisons d'autoriser Satan à le faire souffrir. Dieu, il explique pas à Job. Il donne pas la réponse à Job. Il donne pas la réponse que Job voulait, que Job exigeait. Il lui donne beaucoup plus que ça. Il lui donne la réponse que Job avait besoin pour continuer à être attaché à la bonne chose, à la vraie chose. Si Dieu lui aurait expliqué, « Job, ben la raison pour laquelle je te fais souffrir comme ça, c'est pour que tu sois un exemple pour des millions de personnes qui vont venir dans les milliers d'années qui vont suivre. C'est pour que tu sois un exemple de fidélité et que tu me suives pour les bonnes raisons. » Et il y a Satan qui est venu, qui t'a accusé, puis j'ai voulu prouver que tu ne me renierais pas. Là, Job arrive. Ah, OK! Là, ça fait du sens. Ça vient justifier Dieu. Ça vient te justifier. C'est correct, le Seigneur. C'est correct. Là, je comprends. Tu as mon assentiment. Je te donne mon accord, Dieu. Est-ce que c'est ça, l'obéissance? C'est comme dire, Dieu, je vais te suivre. Si ça fit avec mon plan, si ça fit avec ce qui est logique à mes yeux, et si je comprends ce que tu fais, là, je vais te suivre. Rendu là, pas besoin de foi, tu donnes ton accord, ton assentiment. Dieu est un partenaire. Dieu est ton allié, avec qui tu as le droit de t'ostiner, et ton égal. Mais là, Dieu montre à Job, je ne suis pas ton égal, je suis Dieu. Je suis le maître de la tempête. Je suis le maître de ce qui te fait le plus peur au monde. Et ça, c'est un petit bout de ce que je suis. Regarde tout ce que je suis. Plus loin, il parle des animaux. Puis il parle de certains animaux vraiment spéciaux. Il parle, on pourrait parler du dragon ici, dans les Écritures qui sont présentées là. L'animal le plus féroce, puis quand il respire, il y a les flammes qui sortent de son nez, puis ainsi de suite. Il n'y a aucun être humain qui peut se tenir devant cette créature-là et puis avoir le dessus sur celle-là. Mais Dieu la domine. C'est ce qu'il nous est dit. Donc, Dieu n'est pas l'égal de Job, et il lui montre. Et il lui montre. Donc, le Seigneur ne répond pas tout en répondant. Dieu ne dit rien sur le conseil céleste, et Francis Anderson le décrit comme ceci, puis c'est vraiment intéressant son paragraphe, je l'invite vraiment à porter attention. Job est amené à se contenter de son sort sans jamais en connaître les tenants et les aboutissants, ce qui constitue l'une des nombreuses perles de ce livre. L'épreuve n'est probante que si Job en ignore la raison. Ça veut dire que si Dieu l'aurait dit à Job, toute l'épreuve aurait été pour rien. Mais si Dieu cache la véritable raison de son épreuve, là, son épreuve fait vraiment du sens. Dieu pousse Job à s'abandonner dans le but qu'il adopte une foi pure, qu'il apprenne à aimer Dieu que pour lui-même. D'aimer Dieu seulement pour qui il est et non pour ce que Dieu lui apporte, qui était l'accusation de Satan direct. Dieu ne semble pas accorder ce privilège à beaucoup de personnes, car ces découvertes se payent au prix fort de la souffrance. Considérer la souffrance en elle-même comme un des plus beaux cadeaux de Dieu, constitue déjà une partie de la révélation. En ne dévoilant pas tout son plan à Job, même après sa réussite, Dieu l'oblige à continuer à marcher par la foi et non par la vue. Job ne voit pas le scénario, il voit Dieu. Il est sans doute préférable que Dieu ne révèle jamais à aucun de nous l'intégralité de notre histoire. Dieu force Job à ne voir que lui. Et non la raison, et non la justification. Parce que là, il tomberait dans la justification. « OK, Seigneur, c'est correct. Là, tu es redevenu mon ami parce que tu m'as expliqué. » De considérer Dieu pleinement pour qui il est, c'est clé. C'est clé pour demeurer dans sa présence. Et ça devrait être suffisant. Et on a besoin d'approfondir. On a besoin de purifier nos cœurs de toute cette impureté-là qui nous amène à suivre Dieu pour ce qu'il nous apporte. On est tous pris avec ça. Et c'est là que quand la souffrance nous assaille, quand Dieu nous enlève ce qu'on considérait être bon puis à ce à quoi on est attaché, et c'est là que tout ce système-là est déstabilisé, qui refait surface dans la fournaise, et là qu'on peut en prendre conscience et le retirer de la sauce, le retirer de nos cœurs, le confesser, et de revenir à Dieu seulement pour qui il est, point final. Aimer Dieu pleinement pour lui-même est la clé afin de toujours courir vers Dieu dans la prière. La conversation lorsque nous sommes dans la souffrance. Quand on va vers Dieu pour s'exprimer, pour, pour aller devant lui, pour comprendre, pour qu'il éduque nos cœurs, pour... C'est la clé de comprendre cet élément-là. Que ces vérités-là, cette vérité-là soit inscrite dans notre cœur. Et de voir les, ce que Dieu nous enlève comme étant une purification, un autre domaine dans nos cœurs que Dieu avait besoin pour emmener notre foi à la perfection. Et il nous faut passer par le dépouillement pour croître jusqu'à devenir des êtres qui aiment librement Dieu, qui possèdent une joie profonde, inconnue de ceux qui aiment de manière conditionnelle ou par intérêt. Nous devons pressentir qu'obéir à Dieu ne nous apportera rien. C'est alors et alors seulement que chercher Dieu, prier et lui obéir commence à nous transformer. La vie nouvelle de Job avec Dieu ne peut voir le jour que si Dieu ne lui révèle pas les raisons de sa souffrance. Si Dieu lui avait tout expliqué, il aurait renforcé le besoin d'auto-justification de Job. À la place, cette expérience amène Job à aimer Dieu et lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Il acquiert une force immense et une grande joie. Il n'a plus besoin que tout aille bien pour tenir ferme dans sa vie spirituelle. C'est très important. De s'attacher à Dieu seulement pour qui il est, nous amène une stabilité dans notre relation avec lui qui ne dépend pas des circonstances.
C'est le privilège des enfants de Dieu.
C'est le privilège des enfants de Dieu.
Dans le monde vit sans Dieu actuellement, la tempête est poignée.
Vraiment. Les gens vivent sans Dieu, puis la tempête est poignée. Oui, effectivement, dans tous les sens du terme. De ne pas tout voir le plan, de ne pas tout comprendre ce qui se passe dans notre vie, nous permet, nous aussi, d'aimer Dieu seulement pour qui il est. Troisième chose, le Seigneur est Dieu, nous ne le sommes pas. Job 38, 5, il dit « Le sais-tu donc? » Et il revient avec ça. « Le sais-tu donc? » T'étais où? Il se replace en tant que Dieu. « Nous ne sommes pas Dieu. » Sa connaissance et sa puissance dépassent infiniment la nôtre. Dans Job 40, verset 2, ça dit ceci, Job 40, verset 2. Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? Est-ce qu'un enfant de 7 ans pourrait remettre en cause la théorie puis le calcul mathématique d'un mathématicien chevronné qui a gagné des prix Nobel, ainsi de suite. La science du deuxième est infiniment plus grande que celle de l'enfant de 7 ans. C'est la même chose avec Dieu, mais fois 1 million et même plus. Est-ce qu'on peut remettre en question Dieu? On ne peut pas remettre en question Dieu. Alors, pourquoi remettons-nous en cause la façon dont Dieu mène le monde? C'est un peu ce que l'on fait, en voulant chercher à tout comprendre, puis en demandant des explications à Dieu d'une certaine façon. Oui, Lourdes. Il n'a pas eu la réponse qu'il voulait, mais il y a eu une réponse pareille.
Il a obtenu, il a, comment dire, une rencontre avec Dieu, et parce qu'on peut se satisfaire de ce qui est décrit, une connaissance qui est Dieu, une connaissance intellectuelle qui est Dieu, mais une connaissance expérimentée de qui est Dieu est beaucoup dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie avec Dieu, dans ce monde. Parce que oui, on peut les savoir, on peut les savoir intellectuellement, mais si on peut l'expérimenter, et Job l'a expérimenté de qui est Dieu, parce qu'il l'a demandé, il a demandé, viens me dire pourquoi tu as fait ça, je veux
On comprend.
Wow! C'est expérimenté. Ça dépasse une connaissance.
Dieu se révèle toujours à nos cœurs pour que nos cœurs comprennent ce qu'il veut dire. Oui? En le cherchant sincèrement.
Et.
Dieu n'a pas donné la réponse que Job voulait. Il a donné la réponse que Job avait besoin. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Mais si Job n'aurait pas été à Dieu, Dieu ne lui aurait pas répondu. Il faut aller à Dieu. Et même en le contestant, oui, mais d'aller à lui. Et c'est ça que Job a fait dans la prière. Job est dans le vrai. Et c'est le dernier point. Job est dans le vrai, dans le sens que Job, la raison pour laquelle Dieu ne lui fait pas de reproche, c'est justement parce que Job, il s'est plaint, il a chialé, il s'est objecté, il a crié à l'injustice. Mais tout ça, il l'a fait devant Dieu. Il n'a pas accusé Dieu, il a questionné Dieu. Et il n'est pas parti en propagande, là, puis essayer de détourner les gens de Dieu, puis de dire, regarde, moi, ce qui m'est arrivé, le Seigneur, tu mets ta confiance en lui, t'es fou. Non. Il a constamment cherché Dieu. Et Dieu lui a révélé toutes ces choses-là parce que, justement, il a crié à lui, il a été vrai. Et... Il avait confiance que Dieu allait lui répondre et Dieu lui a répondu. Et au verset 42, on voit que Job a retiré sa requête, a retiré sa demande. Il s'est repenti de sa demande. Il s'est retiré de sa requête. Il dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu au verset, chapitre 42. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Et ici, le mot « rependre » qui est là, c'est « je me retire ». Je retire ma requête. Je retire ma demande. Je comprends que ma question, elle n'était pas bonne. Ma question n'était pas la bonne. J'ai vu ta réponse. Je t'ai vu toi. J'ai vu ta gloire. J'ai vu ta grandeur. Et Job a été purifié dans sa foi. Job, il peut maintenant aimer Dieu encore plus profondément, d'une foi, d'un amour qui est encore plus pur, qui est encore plus libre, qui ne dépend plus des biens, de la possession et de sa richesse sur la terre. C'est grand. Une rencontre personnelle avec Dieu est mieux qu'une explication. Oui. Et le psaume 34, 19 dit « Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Même si nous ne ressentons pas la présence de Dieu dans les moments sombres ou de désert, il est tout de même présent. Il n'existe aucun moyen plus simple d'affronter la souffrance que celui-ci. Comme Job, vous devez chercher Dieu, aller à lui, prier, même si vous n'avez plus de mots. Lire la Bible, lire sa parole, même si cela nous coûte, nous finirons par ressentir sa présence à nouveau. Les ténèbres ne dureront pas éternellement. » Voilà ce qu'il nous faut pour toujours courir vers Dieu dans nos souffrances. Reconnaître sa souveraineté complète. Vivre ce que nous avons à vivre dans une relation, dans une conversation avec notre Dieu. Et non dans le but d'avoir des explications, de peser sur le bouton, le bon bouton pour que tout redevienne comme avant, mais de simplement rechercher sa présence parce qu'il est Dieu. Peu importe la souffrance que l'on vit, c'est important de se rappeler qu'il est Dieu et que tout lui appartient et qu'on peut aller à lui librement dans l'état à lequel on se trouve maintenant. Et la prière et cette conversation-là est l'opportunité d'aller à sa rencontre et de laisser Dieu nous répondre. Mais on a à exprimer nos choses puis à courir après lui. Allons dans la prière. Merci Seigneur Jésus pour cette histoire qui est si riche, qui est si profonde, Père éternel, que tu nous as laissée dans ta parole. Seigneur, à travers l'histoire de Job, tu te révèles. Tu te révèles, Seigneur, dans un moment difficile pour Job. Et Père éternel, tu nous montres qu'on peut aller à toi, peu importe notre situation. Peu importe l'état de nos cœurs, Seigneur, tu es capable d'en prendre. Tu es capable de faire la part des choses. Tu nous demandes d'être vrai avec toi, Seigneur, mais d'aller vers toi, de te poursuivre, de te chercher constamment. Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre les vérités que tu as enseignées à Job. Seigneur, viens faire cette œuvre dans notre vie. Viens nous attacher pleinement à toi, Père éternel. Que l'on te serve seulement pour qui tu es, toi, et personne d'autre, et rien d'autre, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous de constamment chercher ta face et te poursuivre. Dans le précieux nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.